secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Olivier Pasquier. Et en ce jour de Noël, je reçois Jean-Christian Petit-Fils pour parler de Jésus. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des idées, auteur d'une vingtaine d'ouvrages historiques. On connaît notamment vos biographies célèbres chez Fayard, un Louis XIV, un Louis XVI, qui ont été des grands succès.
Chez Perrin.
Oui. Voilà, mais comme maintenant vous êtes chez Fayard.
Voilà,
exactement. Vous venez de publier chez Fayard un Jésus, une grosse somme consacrée à Jésus. Alors, et moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérouté, induit en erreur, c'est qu'il y avait une bande sur le livre qui mettait le Jésus l'histoire, et puis quand on lit attentivement le livre, on s'aperçoit que oui, c'est un Jésus dans lequel vous resituez parfaitement bien dans l'histoire avec vos compétences d'historien, et on apprend plein de choses passionnantes sur le contexte notamment historique précis à la fois des traditions juives et romaines, et puis en même temps, à toutes les pages, on se dit mais quand même, cet homme-là est habité par la foi. Donc j'ai l'impression que c'est à la fois un Jésus de l'histoire et un Jésus écrit par un croyant et un catholique convaincu.
Alors, oui, effectivement, je suis croyant et catholique, mais je n'ai pas écrit ce livre en tant que historien croyant, parce que ça n'existe pas. C'est pas une catégorie. J'ai écrit en tant qu'historien ouvert sur la foi. L'historien, lui, a son métier, a ses techniques d'investigation, de confrontation des documents. Et là, la foi n'a rien à faire, évidemment, à l'affaire. Donc, simplement, c'est un Jésus d'historien, mais je le répète, ouvert sur la foi. C'est-à-dire que je ne prends pas position sur les exorcismes, sur les miracles, et évidemment, bien forcément, sur la résurrection. Mais je la nie pas non plus. Je pense à Renan, qui a écrit à 149 ans une fameuse vie de Jésus, et qui disait « Si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un tissu d'erreurs. » Alors, il parle évidemment d'un point de vue positiviste, scientiste, qui n'est pas recevable en tant qu'historien. L'historien n'a pas à être positiviste ou scientiste. Il a à s'incliner devant le mystère et à rester à un certain seuil pour respecter d'abord le croyant et surtout chercher les enchaînements, chercher les logiques dans la vie de Jésus.
Alors ça, je ne le nie pas du tout. Mais en même temps, on sent que c'est un livre que vous portez avec du cœur. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui le porte. J'imagine que vous avez travaillé. Alors, c'est le livre que vous aviez envie de faire depuis très longtemps.
Très très longtemps, ça fait 27 ans que je travaille à cet ouvrage, 25 ans de gestation, 2 ans d'écriture. J'ai commencé à être intéressé à la vie de Jésus au moment des grandes querelles en 83-84 entre Tresmontant, l'abbé Carmignac, le père Grelot sur la langue dans laquelle ont été écrits les évangiles, avec des polémiques assez vives à cette époque. Et tout ça m'a beaucoup intrigué, et en tant que croyant, j'ai voulu évidemment m'intéresser au Jésus de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, la chronologie exacte, la date de la naissance, du ministère public, la passion, quand Jésus est-il mort, et puis évidemment, qui est-il, pensait-il être le Messie, le Fils de Dieu, pour quelle raison a-t-il été crucifié, et puis par qui, est-ce les autorités juives, ou est-ce que ce sont
Alors on va reprendre un certain nombre, effectivement, de ces points-là. On va commencer par Noël, parce que finalement, voilà, l'actualité nous amène à parler de cet événement que vous traitez d'ailleurs à la fin de votre livre. D'ailleurs, pour quelle raison ?
Alors, parce que les évangiles de l'enfance ne peuvent pas recevoir de la part d'un historien le même traitement que les textes évangéliques.
Pourquoi ?
Parce que ce sont des récits qui comportent une part, bien sûr, d'allégorie et qui ont un but théologique bien précis. Et il s'agissait, de mon point de vue, puisque c'est, pour moi, les évangiles ont tous été écrits aux environs des années 60, au début des années 60, de réagir contre...
Tous étaient écrits, vous voulez dire, y compris l'évangile de Jean ?
Y compris l'évangile de Jean, un peu plus tard, on peut en parler.
C'est un vrai débat.
Oui, absolument. Mais
99% des exégètes disent qu'il a été écrit 20 ou 30 ans après.
Non, je persiste et je signe. Il s'agissait de réagir à ce moment-là, dans les années 62-63, contre une hérésie qu'on appelle l'hérésie ébionite, qui considérait que Jésus n'était pas Dieu donc dès sa naissance et avait été adopté par le Père. Donc ça rejoint les thèses adoptionnistes qui se développeront ultérieurement. Et c'est pour ça, me semble-t-il, qu'on a, on voit la présence de deux évangiles de l'enfance, un peu différents, avec certaines contradictions qu'on a soulignées, dans les évangiles de Matthieu et de Luc, ce qui montre d'ailleurs que l'évangile de Matthieu et de Luc ont été écrits à peu près en même temps, parce que les textes évangéliques et les textes religieux circulaient énormément. On voit dans les lettres de Paul, il écrit à ceux de la Odyssée, transmettez ma lettre aux Corinthiens, etc. Il y a une circulation très rapide. On ne met pas des années à franchir la Méditerranée, contrairement à ce qu'on pense. Les communautés chrétiennes se passent les textes, donc les évangiles.
Alors il y a quelque chose sur le lieu de naissance de Jésus qui fait évidemment débat chez les historiens depuis très longtemps, c'est que Matthieu nous dit que Jésus, la famille de Jésus habitait à Bethléem et qu'ils ont été vivre à Nazareth, et Luc nous dit qu'ils habitaient à Nazareth, mais ils ont été à Bethléem à cause du recensement de Quirinius pour se faire recenser dans la ville de Joseph, et ils sont revenus ensuite à Nazareth. Alors on a un peu l'impression quand même que tout ça a peut-être été construit pour montrer que Jésus est bien le Messie qui devait naître à Bethléem. Est-ce qu'après tout, il n'est pas tout simplement né à Nazareth?
Alors, bon, moi, je ne le pense pas, parce que je pense que Bethléem, qui est la ville de David, la vieille ville de David, n'est pas essentielle dans le schéma. Je veux dire par là que Jésus, et ça, c'est un point important que je souligne en lui, et qui n'est pas en général mentionné dans les ouvrages français. J'ai trouvé ça dans des ouvrages américains et puis dans un ouvrage d'un moine bénédictin qui a parfaitement connu la Terre Sainte, parcouru pendant des années la Terre Sainte, qui est Bargil Pixner. Jésus appartient à un milieu très particulier de Nazareth, qui sont les Nazoréens. Et ce groupe des Nazoréens, c'est un petit clan davidique qui prétend descendre du roi David. Le roi David remonte à 1000 ans, donc on n'a pas de certitude quant aux généalogies. Mais il reste que ce petit groupe gardait des généalogies, et on en a des exemples dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Ce petit groupe donc attend la venue d'un Messie de la race de David, comme l'avait annoncé le prophète Isaïe, et était un peu mal considéré de la part des autres juifs, des autres rabbis. On pense à la parole de Nathanaël, qui lui de Cana, donc qui est un patelin à 11 kilomètres de là, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ça vient du fait que ce groupe qui a investi les ruines d'un village, parce que le village de Nazareth remonte au 6e siècle avant notre ère, enfin le village, il s'appelait pas Nazareth, en des ruines, et puis entre-temps, c'est seulement au 2e siècle qu'on voit à nouveau des constructions apparaître à cause de l'implantation de ce petit groupe venu de Mésopotamie au 2e siècle avant notre ère, sous l'instigation probablement des rois asmonéens qui voulaient rejudaïser la Galilée. Il y avait deux villages, l'un qui s'appelait Nazara, de Natser, la racine de Jessé, et l'autre s'appelait, de l'autre côté du Jourdain, qui s'appelait Kokaba, l'étoile. Donc c'était des noms parlants pour ce petit clan.
Et vous dites qu'il y avait qu'une cinquantaine de maisons, donc c'était vraiment...
Très peu. Donc le fait qu'on parle de la naissance de Jésus à Bethléem me paraît très secondaire par rapport au fait qu'il appartenait à ce clan. Et donc ça donne une plausibilité historique un peu plus grande, je dirais, plutôt que de nier le fait que...
Oui, mais justement, vous dites très justement que Nathanaël dit de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon. Plusieurs fois dans les évangiles, les grands prêtres s'étonnent qu'on voit Caïphe qui dit à Nicodème, enfin lis les Écritures, le Messie vient pas de Nazareth, il vient de Bethléem. Voilà. Donc c'était très important pour les évangélistes d'essayer de convaincre leurs auditoires juifs dans ces années 60-70 que finalement Jésus est bien né à Bethléem, ce qui met un doute historique.
Moi, je pense que la naissance à Bethléem me paraît très vraisemblable. Je n'imagine pas que Luc ait inventé l'histoire du recensement. Alors, c'est vrai
qu'on sait qu'il n'a pas eu lieu du tout à la même époque.
De Quirinius a eu lieu en 6 de notre ère, mais on sait qu'il y a eu d'autres recensements et l'un qui a commencé en moins 8. Avant Jésus-Christ. Par conséquent, ce qui nous rapproche de la date de naissance.
Donc Luc se serait juste trompé sur le recensement.
Quirinus était probablement en Asie à ce moment-là et il se serait probablement trompé sur le nom de celui qui a organisé le recensement.
Alors maintenant sur la question des rois mages. Qui sont ces fameux rois mages pour vous ?
Alors ça pose le problème de la date de naissance.
Vous avez tout à fait raison. On va commencer par ça.
De Jésus. Jésus est né avant Jésus-Christ. Je crois que c'est important de le dire parce que, tout simplement parce que un moine du 6e siècle qui s'appelle Denis le Petit s'est trompé dans sa datation. Jésus semble être né en moins 7 avant notre ère. Donc par conséquent, nous ne sommes pas en 2011, mais nous serions en 2018. Pourquoi ? En tout état de cause, on peut considérer que Jésus est né au moins en moins 4. Puisque, d'après les textes évangéliques, Matthieu et Luc, il est né sous le roi Hérode le Grand, lequel est mort en moins 4 de notre ère. Si on rajoute les 2 ans liés au massacre des innocents, puisqu'on a tué tous les enfants de moins de 2 ans, on arrive à moins 6. Et la date de moins 7 est assez intéressante en ce sens qu'il y a des travaux qui remontent très loin, puisque ça remonte à Kepler, l'astronome Kepler, qui le 17 décembre 1603, à Prague, observant le ciel, découvre une conjonction tout à fait étonnante de Jupiter et de Saturne qui se rapprochent au point de former une étoile très brillante dans la constellation du Poisson. Kepler a fait des calculs et il est arrivé au fait qu'il y avait eu aussi cette conjonction en moins 7. Et il a pensé que c'était la date de naissance de Jésus. Il ne savait pas que quelques années auparavant, au 15e siècle, un rabbin portugais, Abravanel, bien connu, lui avait dit que le Messie apparaîtrait au moment de la conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation des Poissons, qui est le symbole d'Israël. Étonnant. Il ne savait pas non plus que, et ça c'est les découvertes archéologiques du XXe siècle, que dans les tablettes de Sippar c'est une ville de Mésopotamie, dans le pays d'Akkad, un pays sémitique, par conséquent, pas très loin de Babylone, eh bien, on a trouvé dans des éphémérides, et vous savez que les astronomes étaient à la fois des astrologues et des savants, on a trouvé trace de cette conjonction à 3 reprises au cours de l'année moins 7. En mai-juin, le 26 septembre et puis le 5 et 15 décembre. Et les calculs astronomiques ont été refaits depuis et on arrive en effet à ces calculs. Alors on peut penser, et là, j'arrive à votre question.
Oui, c'est que les rois mages sont des astrologues.
Voilà, ou des astronomes, ça dépend de ce que
vous choisissez. Ils observent le ciel en tout cas.
Ils observent le ciel et on peut penser qu'à Sippar, il y avait des astrologues juifs issus de la diaspora, issus de la déportation, qui étaient restés là et qui, eux, ont pu comprendre que la constellation des Poissons symbolisait l'Ouest, les pays de l'Ouest, et Amourou, les pays de la Syrie et de la Palestine, que Jupiter, c'était la planète du soleil et de la puissance, et Saturne, celle d'Israël. Donc, ils ont pu lire cela. D'autant plus que, lors de la troisième conjonction, ça se passe le 26 septembre. C'était à ce moment-là qu'avait lieu la fête du Kippour, le fameux jour de Kippour où le grand prêtre pénètre dans le Saint des Saints. Donc, ça peut être l'élément déclenchant. Donc, bien sûr, ce sont des hypothèses, tout ça, hein. On est en pleine hypothèse, mais on est bien obligé de travailler, quand on travaille sur la vie de Jésus, sur des hypothèses. L'essentiel, c'est de trouver les hypothèses les plus vraisemblables, les plus plausibles. On a parté d'une explosion d'une supernovae en moins 4 ou en moins 2, etc. Mais non, l'essentiel, c'est de voir que dans le texte de Matthieu, on voit que l'étoile apparaît et disparaît. Donc, cette triple conjonction est assez intéressante de ce point de vue, puisque, en effet, en moins 7, eh bien, il y a 3 apparitions et donc 2 disparitions.
Alors, puisqu'on parle de la date de naissance de Jésus, je voudrais qu'on parle tout de suite de la date de sa mort. Parce que là, il y a aussi beaucoup de théories sur le moment où il aurait pu mourir. Il y a toute une série de calculs qui ont été faits sur les Pâques juives de l'époque. Est-ce que vous avez avancé une hypothèse qui vous paraît plus plausible ?
Alors, je me suis attaché, évidemment, à retenir l'hypothèse la plus plausible. les calculs astronomiques ont été faits aussi pour la date de Pâques en fonction du calendrier juif. On sait que la Pâques a eu lieu le samedi. Et que moi je me suis fié essentiellement, on pourra en parler, sur l'évangile de Jean, qui est pour à mon avis à la fois le plus spirituel, mais aussi le plus historique. Et quand on se base sur cette la mort de Jésus la veille de la Pâque, le vendredi, et la Pâque le samedi, hein, ce sabbat si solennel dont parle Jean dans son évangile, eh bien on arrive à deux dates possibles. La première, ça serait la mort de Jésus le 7 avril de l'an 30, et la seconde, ça serait le 3 avril de l'an 33. Alors beaucoup ont voulu s'arrêter au 7 avril de l'an 30, parce que Jésus étant déjà né quelques années avant notre ère, ça lui donnait un âge un peu trop grand, un peu trop élevé. Cela étant, je pense, quand on voit la nécessité de passer les 3 années et demie de ministère public, tel que Jean nous les décrit, de placer le ministère antérieur de Jean-Baptiste, qui dure un certain nombre de mois avant que Jésus aille au Jourdain se faire baptiser. Tout cela me conduit à penser que c'est plutôt la date de 33 qu'il faut retenir.
Ça veut dire que Jésus serait mort à 40 ans.
Jésus serait mort à 40 ans. Quand Luc dit qu'il avait environ 30 ans au début de son ministère, je pense que c'est un âge symbolique. C'est l'âge à partir duquel les rabbis peuvent enseigner. C'est un âge parfait dans différents textes bibliques. Donc, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. En revanche, quand on voit les opposants pharisiens dire à Jésus « Tu n'as pas 50 ans », on est étonné, évidemment, s'il avait simplement 30 ans. Donc, entre 30 et 50, oui, il y a 40.
Quoi qu'il arrive, il n'est pas mort à 33 ans parce qu'effectivement, compte tenu de la date de naissance qui doit être avancée de 6 ou 7 ans,
absolument,
il serait mort plutôt vers 36, entre 36 et 40
absolument
ans.
Alors d'autres raisons militent aussi pour l'année 33, en particulier ce qui permet de bien comprendre le déroulement de la Passion et comment Pilate a été déstabilisé en l'année 31 par l'assassinat de son protecteur et patron Séjan, qui était en fait sorte de premier ministre de Tibère, qui était très anti-juif et qui protégeait Pilate. En 32, s'est passé, on le voit chez Flavius Joseph et chez Philon d'Alexandrie, l'affaire des boucliers d'or, c'est-à-dire des boucliers à la gloire de Tibère, parce que évidemment, Ponce Pilate avait envie de se rapprocher de Tibère et de le flatter. C'est à partir de ce moment-là qu'il construit le Tibérium à Césarée maritime. Et donc, il introduit subrepticement à Jérusalem des boucliers d'or à la gloire de Tibère. Évidemment, les Juifs poussent des hurlements, c'est de l'idolâtrie. Et les 4 fils d'Hérode le Grand vont protester auprès de Ponce Pilate, qui leur tient tête, dont Hérode Antipas. Et ils décident d'écrire à Tibère, et Tibère sanctionne Ponce Pilate. Donc, Ponce Pilate est déstabilisé, ce qui permet de bien comprendre la psychologie dans laquelle il va aborder le procès de Jésus en l'an 33.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils. Nous parlons de Jésus et nous venons d'écouter ce magnifique Des Profondis de Delalande. Alors, on a abordé un petit peu rapidement, mais on est obligé d'aller très vite, et je renvoie à votre livre Jésus chez Fayard, la question de la datation, notamment de la naissance et de la mort. Maintenant, j'aimerais qu'on en vienne plus sur l'identité de Jésus. Évidemment, c'est une question à jamais ouverte, mais qu'est-ce que, selon vous, Jésus pensait de lui-même, c'est-à-dire de sa mission? Comment est-ce qu'il démarre son ministère, et est-ce que lui-même pensait qu'il était le Messie?
C'est une vaste question.
Oui, mais enfin, je vous pose tout en vrac. Alors, et je vous laisse vous débrouiller.
Indiscutablement, Jésus est un juif pieux, et on ne l'a pas suffisamment dit pendant des siècles, marqué par la tradition d'Israël, par la culture, par la religion d'Israël. Et ça, tous les historiens israélites ou les juifs qui font des recherches sur Jésus, sur le Jésus de l'histoire, que ce soit David Flusser ou Shalom Ben Shorin, par exemple, ou le rabbin Jacob Neuncher, montrent donc l'enracinement de Jésus dans le monde culturel de son temps. Jésus est venu, et il le dit lui-même, pour les brebis perdues d'Israël. Il n'apporte pas au départ un message universel, mais on a déjà quand même une annonce d'ouverture, puisqu'on n'adorera plus Dieu sur le mont Garizim ou sur
le temple de
la Samaritaine ou au temple de Jérusalem. Il annonce déjà un élargissement d'Israël. Et son message, c'est le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, nous dit Matthieu, parce qu'on n'ose pas toujours parler de Dieu en tant que personne dans l'Ancien Testament, et donc le Nouveau non plus. C'est le royaume de l'amour infini, de la miséricorde, du pardon offert à tous. Mais pour autant, on peut penser que le message est lié au messager. C'est-à-dire qu'il se présente comme l'accomplissement du royaume. Le royaume, c'est lui. Et là, on est dans l'étonnement, parce que comment un simple artisan de Nazareth
prétend...
Oui, il faut
rappeler en quelques mots qu'il a vécu une vie humble
et fermée,
pendant plus
dans
de 30
ce milieu
ans.
Très particulier qu'étaient les Nazoréens, descendants de David, ou se prétendant des descendants de David. Et puis, il nous parle avec une autorité inouïe. Le serment sur la montagne, Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis de faire cela. Donc c'est à tout le moins un réformateur, voire un révolutionnaire au regard de la religion juive, parce qu'il ébranle complètement les fondements, il intériorise bien sûr la religion juive.
Il se fait le maître du Shabbat.
Il est dans son accomplissement le plus total, mais il va bien au-delà évidemment des prescriptions que ces pharisiens, finalement, qui n'étaient pas très loin, pas très éloignés de Jésus d'un point de vue doctrinal, ils croyaient en la résurrection.
Beaucoup
des morts.
Disent que Jésus était un pharisien.
Jésus
finalement.
A été certainement proche, très proche des pharisiens. Mais il s'en dégage justement par l'autorité extraordinaire avec laquelle il parle. Et on sait qu'il n'a suivi aucune école rabbinique, qu'il ne se rattache pas à celle de Hillel ou de
Gamaliel. Est-ce qu'il a pu être influencé aussi par les Esséniens?
On ne voit absolument pas la moindre trace d'influence des Esséniens.
Alors là, je trouve que vous êtes trop catégorique, parce que quand même, il y a des éléments importants sur l'imminence du royaume de Dieu, la critique du temple et du sacrifice au temple, le baptême par immersion. Dont
oui, mais l'esprit même des Esséniens, c'est un repliement sur soi, un intégrisme juif qui vise à se séparer des autres, à se séparer même des autres juifs, à pratiquer des ablutions en attendant l'apparition d'une nouvelle dynastie de grands prêtres, puisqu'ils considèrent que Jérusalem n'est plus dans Jérusalem et que le temple de Jérusalem est souillé par des dynasties de grands prêtres. Donc ils sont extrêmement repliés sur eux-mêmes, recroquevillés. Alors on peut trouver des choses très intéressantes, des pépites, bien sûr, mais ça nous montre, les manuscrits de la Mère-Monde nous montrent le milieu dans lequel Jésus a vécu et nous montrent la diversité étonnante du judaïsme de cette époque. Ce qui nous permet par exemple de considérer que l'évangile de Jean n'est pas marqué par la pensée hellénistique, mais beaucoup plus par une pensée juive. Quand Jean nous parle de la lumière, quand Jean nous parle de l'opposition des ténèbres et de la lumière, ça rejoint la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres chez les Esséniens. Cela étant, pas plus Jean-Baptiste que Jésus n'ont reçu une éducation chez les Esséniens. décennies, hein, sauf dans les romans. Dans les romans
non, non, bien sûr, mais il y a quand même un point important aussi, c'est le célibat de Jésus. Il n'y a que les Esséniens qui prenaient finalement le célibat à cette époque.
Il semble quand même qu'il y avait des quartiers esséniens, notamment à Jérusalem, dans le sud de Jérusalem, où là, apparemment, il n'y avait pas de célibat. Ça dépend des interprétations. En effet, d'après Flavius Joseph, il y aurait des groupes célibataires. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la règle absolue et spécifique des Esséniens?
Est-ce que vous y croyez au célibat de Jésus?
Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il suffit de se référer à la fameuse parole sur les eunuques. Il y a des eunuques nés de la nature, il y a les eunuques qui ont été faits eunuques par la volonté des hommes, et puis il y a ceux qui le font pour leur en vue du royaume. Et donc, ils se présentent comme un eunuque en vue du royaume. Ça, pour moi, ça paraît très clair. Jésus n'a pas épousé Marie-Madeleine et n'est pas à l'origine de la dynastie mérovingienne,
oui,
si vous voulez que je vous dise ça.
Je partage votre
avis,
mais...
ça. Donc, il y a l'autorité. Il y a le fait, par exemple, qu'il appelle Dieu Abba. Abba, c'est tout à fait inusuel dans la littérature juive. Bien sûr, il y a une paternité de Dieu à l'égard du peuple. On voit dans tous les textes, Isaïe. Mais jamais, dans les prières juives, vous voyez la formule Abba, ça veut dire papa. Donc, c'est tout à fait étonnant. Il dit « mon père ». Et votre père, quant à ses apôtres et à ses disciples, il leur enseigne bien sûr comment prier Dieu en leur disant, vous direz notre père, mais il se distancie toujours du reste des apôtres. C'est assez étonnant. Et tout ça, évidemment, nous conduit à un mystère, d'autant plus grand qu'il pardonne les péchés, ce qui est un attribut de Dieu. C'est pas un simple homme qui peut pardonner les péchés. Donc, tout ce que l'historien peut dire, c'est nous butons sur un mystère. Alors reste le problème du messianisme.
Oui, absolument. Il naît à une époque d'effervescence messianique.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a un conflit très fort. Vous le disiez tout à l'heure, les Romains ont envahi la Palestine. Il y a une très forte tension. Et il y a plein de prêcheurs. Il n'est pas le seul. Il n'est pas du tout l'unique, finalement, à prêcher, à annoncer le royaume de Dieu. Et beaucoup ont été, d'après les historiens romains de l'époque, notamment Flavius Joseph, beaucoup ont mal fini, justement. Est-ce qu'il se situe dans cette lignée de ces prêcheurs itinérants qui annoncent l'imminence du royaume et qui sont pris par ses disciples pour le Messie?
Alors, en effet, il y a une angoisse et une attente fébrile de la venue d'un Messie en Israël.
C'est-à-dire d'un sauveur.
D'un sauveur, mais c'est d'un sauveur temporel.
Bien sûr. Hein.
Alors, on se souvient de ce qu'avait dit Isaïe, un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. On parle de la venue d'un conseiller merveilleux, d'un prophète qui viendrait avant le Messie. Les Esséniens, eux, et ça se comprend, nous parle de la venue de deux messies, le messie d'Aaron, puisqu'il faut renouveler le sacerdoce de Jérusalem, et le messie d'Israël, étant entendu d'ailleurs que le messie d'Aaron dominera le messie d'Israël. Donc il y a des interprétations multiformes de la notion de messie. Mais c'est toujours dans un sens un peu de zélote, entre guillemets,
oui,
parce que les zélotes adhèrent beaucoup plus tard, mais c'est un messie temporel qui va soulever, en fait, et va prendre la tête de la révolte, chasser les Romains, et puis recevoir la couronne d'Israël. Et ça, Jésus, justement, fuit cela constamment. C'est une de ses tentations. Est-ce que c'est la tentation du pouvoir? Mais après la multiplication des pains, on veut le faire roi, il s'en va. Et au fond, on pourrait dire qu'il est en rupture avec son milieu d'origine à cause de cela. Parce qu'on attend, et on le voit, la rupture quand il revient à Nazareth, c'est on attend qu'il prenne la tête, puisque lui, c'est un descendant, c'est l'héritier probablement du clan davidique. On apprend qu'il prenne la tête et puis
de
la révolte. Et pour parler de ces révoltes, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le berger en Tongès, il y a eu Judas le Galiléen ou Judas de Gamla, qui en l'an 6 de notre ère, donc Jésus avait à peu près 12-13 ans, révolté et les armées romaines alliées aux armées nabatéennes, donc de voisines d'Arétas IV, ont rasé la ville de Séphoris. Et Jésus, très certainement, dans sa jeunesse, vivant à Nazareth, a vu cette belle ville de Séphoris brûler. Elle est à peu près à 1h30 de marche, donc pas très loin de Nazareth. Et il a dû voir quelques-unes des 2000 croix qu'on a plantées sur les routes de Séphoris. Donc, il refuse, il rejette cette notion d'un royaume temporel. Il le dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il va faire très attention avec la notion de Messie.
Oui. C'est un peu il va la spiritualiser. C'est une sortie par le haut, c'est ce que dit notre ami Marcel Gaucher.
Et il va la spiritualiser. En tout cas, les chrétiens vont spiritualiser le terme de Messie, puisqu'on va appeler Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Messie, Jésus-loin. Mais je ne suis pas sûr que de son vivant, si je puis dire, Jésus aurait aimé être appelé Jésus-Christ, parce qu'il y avait une connotation
et une ambiguïté
de ce point de vue.
Alors, vous avez raison d'insister sur un point qui est très important, c'est une des ruptures qu'il y a avec le monde juif de son époque, c'est cette rupture sur la dimension temporelle du Messie. Il y a un autre point qui est très important, c'est la rupture aussi avec le pur et l'impur. Il fait exploser complètement les lois traditionnelles du pur et de l'impur. Il parle à des prostituées, à des publicains, à des gens souillés, à des femmes considérées globalement comme impures. Et donc, il a cette liberté absolue et il a aussi une dimension d'un discours d'amour et de miséricorde qui montre que l'amour de Dieu est infini et que finalement, la loi doit conduire à l'amour. C'est cette parole merveilleuse face à la femme adultère où il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc, il a un discours assez révolutionnaire où il montre que finalement, l'amour du prochain, c'est l'essence même de la loi et du message divin.
Totalement. Alors, c'est là où il s'oppose aux pharisiens, eux, qui avaient cloisonné la société juive par une multiplicité de préceptes et puis des interdits avec ce jeu du pur et de l'impur. Et donc, à tel point que je crois que c'est Flavius Joseph qui nous raconte que à Jérusalem, quand deux juifs passaient dans une petite ruelle étroite, ils évitaient de se frotter l'un contre l'autre parce qu'on ne savait jamais si on ne rencontrait pas quelqu'un, une personne impure, même à Jérusalem. Donc, on faisait très attention, on cloisonnait. Et Jésus fait exploser tout ça. Et Jésus, par, évidemment, la loi de l'amour, par l'intériorité que l'on doit donner à tous ces préceptes plutôt qu'une vision extérieure et contraignante, un carcan.
Et c'est ce message-là qui universalise profondément évidemment le judaïsme et le Dieu des Juifs. Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour. Alors justement, j'ai beaucoup cherché un texte qui puisse rendre compte de toutes ces choses que vous évoquez dans votre livre et je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver un texte sur Jésus qui justement parle de cette essence que vous venez d'évoquer. Et très curieusement, mon choix s'est arrêté sur un texte de Verlaine. Alors le choix va peut-être vous étonner, parce que Verlaine n'est pas exactement connu pour être un grand chrétien. Il a plutôt une image de débauché. Et c'est précisément pour ça que sa poésie spirituelle, que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai découverte, est si intéressante. Alors, dans un recueil de poèmes intitulé « Sagesse », il a une suite de poèmes qui sont saisissants, dans lesquels il rend compte de son dialogue intime avec la figure du Christ. Et en l'occurrence, c'est une suite de sonnets qui sont qui sont une suite de dialogues, en fait, hein, où il parle avec le Christ. Le Christ lui parle, il lui répond. Et le Christ l'enjoint, bien sûr, d'entrer dans l'amour. Alors, évidemment, je ne vais pas lire les 9 sonnets à la suite qui rendraient compte de la totalité de ce dialogue. J'en ai choisi quelques extraits. Et voilà, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que, justement, c'est que ce soit Verlaine, le débauché, dans tous les sens du terme, qui nous rende compte du fait de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que le Christ parle, le mouvement d'amour qui l'anime, précisément, est au-delà du pur et de l'impur. Mon Dieu m'a dit, mon fils, il faut m'aimer. Tu vois mon flanc percé, mon cœur qui rayonne et qui saigne, et mes pieds offensés que Madeleine baigne de larmes, et mes bras douloureux sous le poids de tes péchés, et mes mains. Et tu vois la croix, tu vois les clous, le fiel, l'éponge, et tout t'enseigne à n'aimer en ce monde amer où la chair règne que ma chair et mon sang, ma parole et ma voix. J'ai répondu, Seigneur, vous avez dit, mon âme, c'est vrai que je vous cherche et ne vous trouve pas, mais vous aimez. Voyez comme je suis bas, vous dont l'amour toujours monte comme une flamme, vous la source de paix que toute soif réclame, hélas, voyez un peu tous mes tristes combats. Oserais-je adorer la trace de vos pas sur ces genoux saignants d'un rampement infâme? Et pourtant je vous cherche en long tâtonnement. Je voudrais que votre ombre, au moins, vêtît ma honte. Mais vous n'avez pas d'ombre, Ô vous dont l'amour monte, ô vous fontaine calme, amère aux seuls amants, de leur damnation, ô vous, toute lumière, sauf aux yeux dont un lourd baiser tient la paupière. Il faut m'aimer. Je suis l'universel baiser, je suis cette paupière et je suis cette lèvre dont tu parles, ô chère malade, et cette fièvre qui t'agite, c'est moi toujours. Il faut oser. Ah Seigneur, qu'ai-je, hélas, me voici tout en larmes d'une joie extraordinaire. Votre voix me fait comme du bien et du mal à la fois, et le mal et le bien, tout a les mêmes charmes. Je ris, je pleure, et c'est comme un appel aux armes d'un clairon pour des champs de bataille où je vois des anges bleus et blancs portés sur des pavois, et ce clairon m'enlève en de fières alarmes. J'ai l'extase et j'ai la terreur d'être choisi, je suis indigne, mais je sais votre clémence. Ah, quel effort, mais quelle ardeur! Et me voici plein d'une humble prière, encore qu'un trouble immense brouille l'espoir que votre voix me révéla, et j'aspire en tremblant. Pauvre âme, c'est cela.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel. Nous poursuivons notre conversation sur Jésus avec Jean-Christian Petitfils, auteur d'une biographie intitulée Jésus chez Fayard. Alors on va un peu au pas de course, hein, parce qu'évidemment il y a énormément de choses, mais je voudrais qu'on en vienne tout de suite plutôt maintenant à la fin, donc la mort de Jésus, qui est un événement qui a été effectivement extrêmement décrit par à la fois les quatre évangiles et puis beaucoup repris dans la tradition chrétienne. Qu'est-ce que vous dites, vous, en synthèse, des raisons pour lesquelles Jésus est mort et de la manière dont s'est passé son procès et il a été exécuté?
Voilà. Alors, en fait, après la résurrection de Lazare, il y a une coalition qui se noue entre deux clans opposés. A priori, ce sont les Sadducéens, c'est-à-dire ce groupe d'aristocrates qui soutient les grands prêtres, Anne et Caïphe. Anne étant le grand prêtre honoraire qui a été déposé en l'an 15, mais qui reste en fait le vrai patron sur le plan spirituel. Et puis Caïphe, qui est celui qui, je dirais, s'acoquine un peu avec Ponce Pilate pour se maintenir au pouvoir. Coalition donc entre les Sadducéens et les pharisiens, avec des motivations différentes. Pour les pharisiens, c'est parce que Jésus prétend se faire Dieu. C'est très clair, il parle au nom de Dieu. On l'a vu, j'ai montré les éléments qui permettent de montrer que Jésus cherche à s'identifier comme étant le Fils de Dieu, au sens fort du terme. Les Sadducéens, c'est pour des raisons économiques et financières. Parce que en l'an 30, donc au début du ministère public de Jésus, les grands prêtres ont transféré le marché aux bestiaux qui étaient sur le mont des Oliviers, et dont les profits revenaient au Sanhédrin, c'est-à-dire aux aristocrates, à la boulée, qui est l'organe dirigeant et religieux de Jérusalem. Et ils l'ont transféré sur le parvis du temple. Et ça, c'est une nouveauté. Étant entendu que tous les profits revenaient cette fois directement dans la caisse des grands prêtres. Donc une affaire un peu sordide. C'est deux motivations différentes. Évidemment, pour les Sadducéens, on menace le pouvoir économique parce que Jésus a chassé les marchands du temple en arrivant et en découvrant ce qui s'était passé là. Ça faisait des années qu'il allait évidemment au temple de Jérusalem et il n'y avait pas cette installation des marchands. Donc, raison économique et raison religieuse. Se tient une séance informelle ou formelle, on ne sait trop, du Sanhédrin. Jean est très bien, très renseigné, parce que Jean, pour moi, c'est un membre de l'aristocratie sacerdotale. Ce n'est pas Jean, fils de Zébédé.
Zébédé, le pêcheur de
Galilée. Absolument. Lui, donc, c'est parfaitement ce qui s'est passé au cours de cette séance. Caïphe a dit, vous ne comprenez rien. La meilleure manière, c'est que vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple tout entier. Au fond, on est dans un système collaborationniste où les grands prêtres sont là pour faire régner l'ordre, pour éviter le désordre, et les Romains comptent sur eux pour maintenir l'ordre. Bon. Donc, le mieux, c'est de prendre Jésus, de se saisir de lui, et puis de le livrer au pouvoir romain, puisque les Juifs ont perdu le droit de mise à mort, sauf cas très particuliers, lapidation, flagrant délit, etc. Donc, voilà l'idée. Judas intervient et livre Jésus. Bon, l'épisode est bien connu, bien sûr. Et à ce moment-là, va se tenir une séance informel dans la maison de Anne, le grand prêtre honoraire, qui va interroger Jésus sur sa doctrine et sur ses disciples. C'est ce que nous dit Jean dans son évangile. Ce n'est pas évidemment une séance solennelle du Sanhédrin. On n'a pas le temps de réunir solennellement le Sanhédrin, de faire comparaître Jésus devant lui. Mais les synoptiques, donc les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qui à la différence de Jean nous présentent une vie plus ramassée de Jésus, ont mis dans cette séance informelle de Anne eh bien, les éléments d'un procès que l'on voit se dérouler en fait dans l'évangile de Jean du chapitre 7 au chapitre 10, c'est-à-dire toutes les confrontations avec les allers-retours de Jésus de Galilée à Jérusalem pour les différentes fêtes, les tentes, la dédicace. À chaque fois, il y a des discussions. Eh bien, toutes ces discussions ont été mises dans un procès un peu fictif, je dirais, dans cette affaire. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas eu de procès juif au sens où il n'y a pas eu de comparution de Jésus devant le Sanhédrin. Jésus est comparu simplement, a été interrogé brièvement par Anne. Caïphe n'était pas présent puisque Anne va livrer après à Caïphe, puisque c'est le grand prêtre en exercice, le soir. Mais d'après Jean, il n'y a pas eu à nouveau de réunion solennelle du Sanhédrin. Et le lendemain matin, on livre en effet Jésus à Ponce Pilate.
Et on le livre à Ponce Pilate et au fond, on cherche à ce qu'il soit crucifié. Et ce qui
comme
fait,
un révolutionnaire. Voilà,
comme
on le présente.
On fait peur à Pilate en disant, mais attention, nous, on adore que César. Enfin, on a de Dieu.
Voilà. Alors, il y a là, va se dérouler là tout un jeu de pression. Ponce Pilate déteste les Juifs. Il cherche à leur résister parce que entre le maître et le collabo, il y a toujours un mépris. Et en même temps, il ne veut pas se laisser instrumentaliser par les grands prêtres. Et il voit bien que Jésus n'est pas un chef révolutionnaire comme on lui présente. Donc, c'est pas par compassion à l'égard de Jésus qu'il fait ça. Il va utiliser Jésus contre les grands prêtres pour leur tenir tête en disant « je refuse de le condamner ». Mais ça va durer un certain temps, jusqu'au moment où, en effet, les grands prêtres vont dire « mais tu n'es pas l'ami de César ». Et à ce moment-là, Ponce Pilate va se souvenir de ce qui s'est passé l'année précédente, en 32, avec la plainte posée à Tibère. Donc, il va lâcher, il le leur abandonne. En fait, il va le faire crucifier par ses soldats, évidemment, mais il cède, alors qu'il, jusqu'à un certain temps, pendant un certain temps, il a tenu bon. On voit donc la psychologie de Pilate, méprisant, ne voulant pas se faire instrumentaliser, et en définitive,
Pilate,
finalement, lâchant,
oui,
parce qu'il peut, il y va de sa place.
Alors, le livre se termine sur l'épisode, évidemment, de la résurrection, qui est présent dans les quatre évangiles. Donc, Jésus meurt crucifié le vendredi, et puis, deux jours plus tard, les évangiles nous racontent que le tombeau est vide. Qu'est-ce que l'historien peut dire de la résurrection ?
Alors, l'historien ne peut pas, évidemment, se prononcer sur la résurrection dans sa globalité. Pour le chrétien, la résurrection est un fait d'histoire, mais ça dépasse l'histoire, bien entendu. C'est ce que disait Benoît XVI dans son dernier livre. Ce que l'historien peut dire, c'est que les communautés chrétiennes attestent des apparitions nombreuses, dont il est difficile de les classer, de donner une chronologie à ces apparitions, mais elles sont en tout cas très, très vivantes et très fortes dans l'esprit des chrétiens, des premiers chrétiens, donc on ne peut pas les négliger, mais on ne peut pas, en tant qu'historien, évidemment, se prononcer là-dessus. Et puis reste ce tombeau vide, découvert par Pierre et Jean, Pierre et Jean montent au matin de Pâques au tombeau, avertis par Marie-Madeleine et les femmes. Et Jean, qui court plus vite que Pierre, s'arrête parce que, de mon point de vue, étant prêtre, il ne peut pas pénétrer dans un tombeau et frôler la mort, si je puis dire. Et quand on s'aperçoit, Pierre ayant pénétré dans le tombeau, que le tombeau est vide, Jean descend. Et Jean, qui est probablement plus intelligent que Pierre, en tout cas qui a une plus grande connaissance du judaïsme, hein, et qui avait écouté les prônes de Jésus sur la résurrection, eh bien, comprend que, voyant les linges affaissés et le suaire qui avait été sur sa tête, sur la tête de Jésus, roulé à part, parce qu'il fallait réunir tout le sang d'un condamné dans un même tombeau, on a conclu que Jésus était ressuscité, était passé ailleurs et que le corps avait disparu. Et la phrase de Jean est très sobre, mais en même temps très profonde. Il vit et il crut. Pourquoi il a cru? C'est parce qu'il a vu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les linges affaissés, non pas en désordre, mais comme si le corps avait disparu de l'intérieur. Alors, ça nous renvoie évidemment à deux reliques, au moins de la Passion. C'est le suaire de Viedo, ce linge roulé à part dans un coin, qui est une grande serviette qu'on a mise sur le visage de Jésus au moment de à sa mort, parce que les Juifs détestent évidemment le visage de la mort, et qui a présenté un écoulement sanguin au moment de la crucifixion, au moment de Jésus en croix. À la descente de croix, il y a eu un nouvel écoulement sanguin. Ce sont des savants espagnols et américains qui ont étudié ça de façon très précise, avec même en minutant l'écoulement sanguin, donc qui permet d'avoir une chronologie jusqu'à la mise au tombeau, qui dure à peu près une heure et demie. Et ensuite, eh bien, on prend le corps et on le descend dans le tombeau, et à nouveau, un nouvel écoulement sanguin. Le suaire d'Oviedo, c'est une grande serviette avec des taches. On a du mal à le comprendre. Mais quand on le superpose au linceul de Turin, au visage de l'homme du linceul, on s'aperçoit que des taches correspondent, notamment de la couronne d'épines. Or, ces deux linges, l'un, historiquement, est daté du 7e siècle, et l'autre, du 14e. Je veux dire par là, le linceul de Turin, je veux dire par là que nous ne pouvons pas remonter au-delà de façon certaine. Hein. Donc, bien sûr, on a des éléments qui nous parlent d'un linceul du temps de Jésus, mais on n'a pas de continuité historique. Or, là, on a une rencontre avec une chose encore plus étonnante, c'est que le groupe sanguin de ces deux reliques est le même. Et y compris, d'ailleurs, pour le troisième relique, la tunique d'Argenteuil, c'est du sang AB, c'est-à-dire 4% de la population, donc c'est rare.
Alors oui, on ne va pas du tout pouvoir, l'émission se termine, hein, donc on ne peut plus rentrer dans cet aspect qui est très intéressant de votre livre, même qui va susciter des désaccords profonds d'un certain nombre de rationalistes, évidemment, parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de controverses sur cette tunique.
Bien sûr, à la fois
scientifique et historique, mais enfin qui reste assez énigmatique. Et vous en parlez longuement
les
à l'occasion.
On débat encore.
Et c'est effectivement une partie où il y a beaucoup de photos dans votre livre sur ces questions-là. Donc je renvoie les lecteurs qui veulent en savoir plus sur la tunique d'Argenteuil et le suaire de Turin et d'Oviedo à votre livre Jésus, dans lequel vous en parlez, pour expliquer justement l'attitude, comme vous venez de nous le montrer, de Jean qui vit et qui crut lorsqu'il a vu les linges. Cette émission touche à sa fin et nous allons passer à l'agenda culturel, cette fois avec Marie Dalquier. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, je voulais vous parler de l'exposition de Fra Angelico et les Maîtres de la Lumière qui se déroule en ce moment au musée Jacques-Marandré dans le 4e à Paris, qui se déroule jusqu'au 16 janvier 2012. Parce qu'en fait, Jésus, c'est le pilier de notre histoire, mais c'est aussi un pilier de l'histoire de l'art. Fra Angelico, finalement, c'est un moine dominicain du 15e siècle à Florence et il va décliner l'iconographie de Jésus tout au long de sa carrière, pendant une longue carrière, pendant 40 ans. Donc, c'est l'occasion de voir des crucifixions, des vierges à l'enfant, des thèmes de la passion et des Christ au tombeau qui étaient chers à cette époque-là. Alors Vasari, qui est un des grands historiens de l'art à cette époque, nous dit justement que Fra Angelico ne pouvait pas représenter le Christ en croix sans avoir le visage baigné de larmes. Alors effectivement, quand on est dans cette exposition, on est frappé par l'humanité, notamment du corps de Jésus. On a presque le sentiment que son ventre va bouger, que ses côtes sont tendues. Et on fait aussi une autre expérience dans cette exposition, c'est devant le Jugement dernier, donc c'est un triptyque, et là on est fasciné par la finesse des couleurs, par la délicatesse des figures, la mystique de la lumière et surtout la merveille du travail des ors. On est presque dans une situation de béatitude. Alors ça nous surprend nous-mêmes et finalement on se rend compte que c'est peut-être pas un hasard, parce que la méditation, c'est au cœur de l'idéal de la vie que propose Saint Dominique, donc qui est complètement en accord avec la vocation de Fra Angelico. Et voilà, c'est vrai que cette exposition, c'est un voyage et c'est aussi une vraie découverte sur l'évolution iconographique de Jésus sur ces trois décennies, puisqu'en fait, Fra Angelico se situe vraiment entre le gothique et la Renaissance. Alors l'exposition propose dans une salle où elle met trois toiles comme ça en miroir. On a donc ces trois toiles en fait où on a la Vierge et l'enfant. Donc une première où on a la Vierge d'humilité. Alors Marie trône, Jésus ressemble plus à un ange sans expression. On est vraiment dans la symbolique de Jésus. Et puis ensuite on a la Vierge d'humilité toujours, mais on a Marie qui descend de son trône et qui s'assoit sur le sol. Déjà un peu plus humble. Et puis on a Jésus qui est habillé et puis qui pose son visage sur la joue de Marie. Et là, son vêtement s'anime parce que Fra Angelico travaille la lumière. Il commence à animer ce corps-là. Et puis la troisième, c'est la Vierge à l'enfant. Tout d'un coup, on dit la Vierge à l'enfant. Oui, parce que Jésus ressemble à un enfant. Tout d'un coup, vraiment, son corps devient vivant. Il est un peu entre un corps de bébé et puis un corps d'athlète. On sent que le travail du corps est en train de se faire. Et puis, Marie regarde Jésus. Et voilà, la force de Fra Angelico, c'est tout simplement d'avoir accentué l'humanité de ces personnages divins pour les rendre accessibles. Voilà. Donc, c'est vraiment une très belle exposition jusqu'au 16 janvier.
Marie Dalquier, merci. Oui, vous vouliez ajouter autre chose?
Oui, alors j'ai pas le temps d'en parler, mais un très bon livre sur Jésus de Hansel Grun, Jésus thérapeute, la force libératrice des paraboles aux éditions Salvator. Et je dirais que c'est un livre qui incarne la réconciliation entre le personnage de Jésus qu'on peut imaginer dans la thérapie, avec la méthode thérapeutique qu'il a développée, et celui qu'on donne dans l'Église, qui est beaucoup plus culpabilisante.
Alors je rappelle le Jésus de notre invité aux éditions Fayard, et puis je signale aussi Le Monde des Religions, un hors-série, Le Message de Jésus, les 8 clés de son enseignement. Et ce qui est aussi intéressant dans ce hors-série, c'est que nous avons demandé à 20 écrivains, Armand Abécassis, des écrivains juifs, des écrivains musulmans, des écrivains athées, des écrivains chrétiens, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Solers, Denis Tillinac, André Comte-Sponville, etc., de nous dire quelle est la phrase qui les a le plus touchés dans les évangiles et de nous dire pourquoi. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup, Jean-Christophe Petit-Fils.
Merci.
Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Patrick Vivray qui évoquera la spiritualité en temps de crise économique. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Joyeux Noël à tous, à dimanche prochain.